Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Grande Tchatch, le Ravi Radio Grenouille. Le Ravi, c'est votre mensuel régional dans tous les kiosques de la région. C'est également un site internet www.leravi.org. Alors, une première émission juste après la saison estivale et on parle d'économie, c'est pas très courant sur la Grande Tchatch et dans le Ravi. Avec nous aujourd'hui, Jean-Luc Chauvin. Jean-Luc Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes abonné au Ravi ?
Ah, écoutez, oui, on le reçoit, on le lit. Pas toujours complètement d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le temps, mais il faudra le faire.
Ça va alors. Donc Jean-Luc Chauvin, qui est président de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, l'UPE 13. Une tradition, Jean-Luc Chauvin, c'est le portrait de l'invité. Et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Le changement, c'est maintenant. La preuve, Jean-Marc Ayrault et 10 ministres du gouvernement socialo-écologie se sont précipités à l'Université d'été du MEDEF afin d'y séduire Laurence Parisot. Pour la première émission de la 7e saison de La Grande Tchatch et le 100e numéro du Ravi, nous ne pouvions pas donc faire moins que d'inviter Jean-Luc Chauvin. Vous présidez en effet à 42 ans l'UPE 13, le MEDEF des Bouches-du-Rhône. À quoi reconnaît-on un patron des patrons ? Vous avez beau tenter de brouiller les cartes, c'est facile. Comme le cinéaste crypto-communiste Nanni Moretti, vous roulez en scooter, oui, mais en scooter trois roues. Comme Bernard Thibault, vous aimez le mot militant, oui, mais vous qualifiez les cégétistes locaux de syndicalistes voyous. Sportif, vous avez même fait sport-études, vous n'êtes pas un fanatique du costard-cravate, oui, mais vous fumez le cigare. Vous dites œuvrer pour l'intérêt général, oui, mais aussi pour votre compte en banque. Né à Marseille en 70, vos études d'économie à Aix-en-Provence se prolongent par un DESS en promotion immobilière et un premier job chez l'ami Bouygues. Ah, le charme de l'immobilier, de la bétonnière, des hausses de loyer, des ventes commissionnées. Et ça marche du tonnerre. À 26 ans, vous achetez avec un associé votre propre société immobilière, Otim. 16 ans plus tard, vous êtes devenu le PDG avec 45 salariés. Auréolé de ce succès, vous dirigez aussi la FNAIM des Bouches-du-Rhône avant, il y a 2 ans, de présider l'Union des entreprises départementales. Vous y imposez votre style et votre goût pour les coups médiatiques. En 2010, par exemple, une fausse campagne de pub pour le meilleur métier du monde, grutier sur le port à 4000 euros pour 26 heures. Cet été, des tractages avec votre collectif Ma Ville, Mon Entreprise pour réclamer de véritables transports publics et une métropole. Vous êtes un gagnant, vous n'avez peur de rien. Pas même d'inviter lors de votre dernier forum des entrepreneurs les frères Bogdanov pour prendre des nouvelles du futur. Pas de doute, avec vous, le MEDEF entre dans la 4e dimension.
Jean-Luc Chauvin, un mot sur les frères Bogdanov.
C'est peut-être la 4e dimension, effectivement. C'est plus le 21e ni le 22e, peut-être encore un ou deux siècles après.
Alors Jean-Luc Chauvin, comme on le disait tout à l'heure en micro, nouvelle saison. On vient juste après une élection présidentielle, c'est les socialistes qui sont au pouvoir. Comment vous voyez cette arrivée de la social-démocratie
Alors effectivement, vous évoquez deux caractéristiques, les socialistes ou la social-démocratie. Là est la question. Est la question. On voit bien aujourd'hui, si on fait un peu d'histoire, que la social-démocratie a amené dans d'autres pays des réformes importantes qui ont permis à ces pays de se retrouver aujourd'hui dans des situations qui sont nettement de meilleure qualité que les nôtres. Je prends un exemple, Gerhard Schröder. Gerhard Schröder en Allemagne qui a fait, il y a dans les années 2000, des réformes indispensables qui permettent aujourd'hui à l'Allemagne d'être citée souvent en exemple, alors que c'était pas le cas avant. Des réformes qui font quoi ? Qui font simplement que l'Allemagne s'est mise en situation de pouvoir être sur un marché du travail qui correspond à celui du 21e siècle, avec une certaine flexibilité qui tient compte du carnet de commandes des entreprises, qui protège à la fois, parce qu'il faut bien donner des contreparties, un peu plus aussi les salariés, donc sur un certain nombre de sujets. Je crois qu'être moderne, c'est se rendre compte que notre code du travail, il est amené à devoir évoluer, nos règles d'organisation sont amenées à devoir évoluer si on veut continuer à garder des parts de marché, pas continuer à dépasser 3 millions de chômeurs, ce qui est carrément insupportable.
Alors on a connu le patron du MEDEF, Sellière, à l'époque, faire siffler Lionel Jospin, Premier ministre, lors d'un rassemblement. Là, on a l'impression que les choses se passent plutôt bien. Là, pour commencer, 10 ministres qui rendent visite et qui viennent expliquer leurs objectifs à l'université d'été du MEDEF. Le Premier ministre, Laurence Parisot, qui dit que le gouvernement a peut-être compris qu'il fallait associer les patrons pour faire face à la crise. Ça démarre bien.
Écoutez, je vais prendre le même ton que vous. Ça démarre bien. Bah, ça dépend. Hein. Dès le début de l'été, demandez à Montebourg si ça a bien démarré quand même. Il est quand même allé traiter de voyou une des plus grandes familles industrielles françaises, Peugeot, pour quelques mois après, quand il y a un rapport qui a été remis, dire que finalement il n'y avait pas autre chose à faire. Lui, le président de la République. Donc je ne suis pas sûr que ça démarre aussi bien que ça. Ceci dit, ne nous trompons pas. Le fait qu'il vienne 10 ministres à l'université du MEDEF cette année, ça paraît surprenant à tous les observateurs parce que ce sont des ministres socialistes ou socialo-écologistes, comme vous avez dit. Alors que les années précédentes, il venait 10 ministres du gouvernement de l'époque, donc dit de droite, et que ça surprenait personne. Soyons sérieux, tout ça, c'est pas la réalité. C'est les jeux, c'est les couloirs. Les 10 ministres qui sont venus, dont le premier d'entre eux, Jean-Marc Ayrault, a fait un discours d'une heure qui est à peu près le même que celui qu'il a fait lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Donc globalement, aucune annonce, rien de particulier. Si ce n'est de dire aux chefs d'entreprise, après les avoir vilipendés tout l'été, que finalement on avait besoin d'eux parce que c'est les entreprises, et ce qui est une réalité, tout le monde le sait, ou en tout cas il faut bien le dire, et les économistes le rappellent sans arrêt, ce sont les entreprises qui créent la richesse et donc qui créent l'emploi. Et le véritable choc des cultures, c'est qu'on a l'impression qu'on se rend compte que pendant les 100 jours, dit les fameux 100 jours, de grâce de la nouvelle équipe, bah, ils ont découvert la situation. Ils ont découvert que pendant qu'il y avait eu la campagne, la crise n'était pas arrêtée, qu'elle était là depuis 4 ans, qu'elle était difficile, qu'elle était profonde, qu'il y avait des gens qui souffraient, qu'il y avait beaucoup de chômeurs, et que le nombre allait augmenter, et que c'était les entreprises qui créaient l'emploi, donc il allait falloir les créer. Donc il allait falloir les faire, et donc plutôt que de taper sur les entrepreneurs, il fallait peut-être essayer de les écouter, trouver des solutions ensemble.
Alors le gouvernement s'apprête à faire adopter un traité européen qui avait été négocié par la majorité précédente. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les électeurs qui ont voté pour le changement se disent, finalement, les uns et les autres feront la même politique, celle justement préconisée peut-être par les donneurs d'ordre économique, les patrons?
Enfin, c'est un véritable risque. Hein. Vous avez raison que dans l'opinion publique, ou certains en tout cas, instrumentalisent et fassent un raccourci de ce type-là. La réalité, je crois qu'elle est tout autre. C'est que l'économie aujourd'hui, bah, elle répond à un certain nombre de règles. Les marchés sont ouverts. On est au niveau de l'Europe, on est au niveau mondial. Et le traité en lui-même... finalement, il apporte quoi? Il apporte que de construire et de stabiliser l'édifice européen qu'on a souhaité, qu'on a voulu et qui est indispensable aujourd'hui. Il apporte que conforter les spéculateurs, enfin que conforter, je dirais, la monnaie européenne contre les spéculateurs, qu'éviter en fait qu'on soit victime, je dirais, de coûts de spéculation et qu'on soit dans un espace économique suffisamment pertinent, qui est celui de l'Europe, avec une monnaie qui est suffisamment équilibrée pour qu'on évite d'être secoué à U et à Dia. Alors le risque, il est exact, il est d'autant plus exact que pendant la campagne électorale, comme vous disiez tout à l'heure, le candidat du changement avait peut-être pris l'habitude de sous-estimer ou de ne pas évoquer la réalité des choses, ou peut-être il la connaissait pas bien, j'en sais rien, en tout cas il est en train de la découvrir, il la découvre bien, et est obligé de gérer. Donc finalement, ce qu'il propose aujourd'hui, bah, c'est ni plus ni moins que sauver quelque part l'euro et sauver l'Europe, parce que on a beau discuter, on a beau dire, on peut dire oui, moi je suis contre l'euro, je suis contre l'Europe, mais il faut voir les conséquences que ça a. Mmh. Aujourd'hui, la France reste un petit pays qui a de plus en plus de difficultés, et si on n'est pas dans un espace plus grand, on ne pourra pas continuer à prétendre à jouer un rôle important dans les premiers pays au niveau international.
Finalement, Jean-Luc Chauvin, ce gouvernement, il vous convient? Vous êtes presque à vous entendre socialo-compatible?
Bah écoutez, d'abord,
c'est le pragmatisme de l'homme d'affaires, ça?
D'abord, je pense que c'est pas une question de socialo-compatible ou pas, mais je pense aussi que c'est du pragmatisme, effectivement, et du pragmatisme réel. Moi, ce gouvernement, je crois qu'on peut lui attribuer un espoir et une chance. L'espoir, c'est qu'il fasse bouger les lignes. Et la chance, c'est qu'effectivement, compte tenu que c'est un gouvernement socialo-démocrate, que les sociaux-démocrates, d'une manière générale, ont participé à réformer un certain nombre de choses importantes en matière d'emploi, notamment sur le marché du travail en Allemagne et ailleurs, notamment en Angleterre aussi, on peut imaginer qu'il y aura le même courage et la même volonté de modifier un certain nombre de choses. D'ailleurs, ne nous trompons pas, pendant la campagne présidentielle et bien avant, personne parlait de compétitivité, personne parlait de baisse des charges avec une répartition salariat, une part patronat. Tous ceux qui en parlaient au plus parlaient que de la part patronale. Moi, à Marseille, l'an dernier, à la rentrée de septembre, il y a un an maintenant, j'ai lancé cette proposition de dire qu'il fallait absolument diminuer les charges sociales, financer autrement la protection sociale. Moi, j'avais dit ou par la TVA sociale ou par la CSG ou par l'impôt, au choix des gouvernants, mais qu'il fallait aussi diminuer la part des salariés. Parce qu'au fond, dans nos entreprises, nos salariés ont de plus en plus de difficultés. Et rendre du pouvoir d'achat à nos salariés, c'est que juste chose alors qu'ils se lèvent le matin pour venir travailler. Et en plus, ça nous permettrait de relancer la consommation. Donc depuis quelques semaines, je suis des plus heureux d'entendre que tout le monde, y compris certains syndicalistes, et je ne voudrais pas citer de journaux confrères à vous, mais un grand journal du dimanche a publié une interview d'une page entière du patron d'une des plus grandes centrales syndicales françaises, si ce n'est la première, je ne sais pas si c'est les premières ou deuxièmes, en train de dire qu'effectivement, pour sauver l'emploi, il fallait financer autrement la protection sociale, parce que c'est aussi la sauver, que sur le travail exclusivement. Donc il fallait baisser les charges, salariés, entrepreneurs, et il fallait créer de la flexibilité.
C'est Chirac pour ne pas le nommer.
C'est Chirac,
hein. Et d'ailleurs, il part en retraite. Hein.
Il part en retraite, mais ce n'est pas forcément mauvais signe, parce que ceux qui sont derrière lui continuent à avancer sur cette voie-là. Je pense qu'en fait, peut-être que comme il part en retraite, qu'il n'a pas besoin d'être réélu, il peut dire la vérité, il peut être empreint de beaucoup de réalisme et il peut essayer de faire avancer son pays.
Michel Guéraud.
Jean-Luc Chauvin, finalement, vous dites à peu près la même chose qu'un Mélenchon, disant à ses anciens camarades socialistes, vous allez faire passer la pilule amère à des gens qui n'ont pas forcément envie de l'avaler en emballant finalement les réformes nécessaires, la réduction des déficits. Ce que peut-être qu'un gouvernement de droite n'aurait pas fait, c'est ce que vous souhaitez
C'est pas forcément ce que je souhaite, mais vous savez, je vais vous dire, c'est pas ceux qui se font le plus entendre qui sont les plus nombreux. Je suis pas certain aujourd'hui que les Français en général ne soient pas plus conscients de la réalité que ceux que vous venez de citer, comme Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la réalité, elle est toute simple. Aujourd'hui, il faut pouvoir préserver l'emploi pour tout le monde. Il faut pouvoir créer de l'emploi pour tout le monde. Il faut donc qu'on puisse développer nos entreprises pour créer de la richesse et de l'emploi et pouvoir le répartir. Et c'est pas en se mettant des barrières et des freins qui sont des freins idéologiques et qui datent d'un modèle économique qui a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale ou au mieux avec le premier choc pétrolier, qu'on va pouvoir être dans le 21e siècle.
Je rappelle quand même que le libéralisme tel quel, c'est lui qui a plongé, c'est lui qui est à la source de cette crise-là. Hein. C'est pas... Et tout le monde réclame, y compris les libéraux, un retour plus ferme des États.
Vous êtes en train de rappeler, lorsque je parle d'un sujet et de certaines idéologies, l'idéologie inverse. Pour autant, je ne suis pas persuadé que l'idéologie inverse soit meilleure. En tout cas, je pense, pour ma part, qu'il y a certainement un juste milieu à avoir. Mais en tout état de cause, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ce n'est pas le libéralisme qui est à l'origine de la crise. C'est nos gouvernants qui sont responsables de la crise.
Enfin, les suprêmes, c'est pas les gouvernants.
On va être clair. Les suprêmes, c'est pas les gouvernants. Très bien. Par contre, les suprêmes, c'est une crise qui s'est terminée en fin 2009. En revanche, elle s'est transformée en crise économique et financière parce qu'il y a une défiance des marchés, parce que les États ont un surendettement qui est insupportable. Parce que la réalité, c'est que tout le monde sait très bien que dans son ménage, dans son entreprise, il peut pas vivre pendant 30, 40 ans en déficit. Or, les États, ils ont cru que oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir croire que oui ? À un moment donné, ils étaient financés exclusivement, les déficits étaient financés exclusivement par les banques centrales des pays. Quand on est passé à la monnaie européenne, on a décidé de pouvoir les financer par les marchés. Ce qui veut dire qu'on a ouvert la capacité d'endettement. Et donc, on a aujourd'hui 1700 milliards de déficit pour la France. C'est colossal, c'est un poids qu'on laisse sur les générations futures. Et à un moment donné, les marchés, puisqu'on est allé appeler le financement des marchés pour financer les déficits, les marchés, ils réagissent comme des marchés. Ils réagissent de façon libérale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont moins de confiance parce que l'endettement est de plus en plus important et qu'on ne fait rien pour le freiner. Et donc, ils disent, on va peut-être baisser le taux de risque. Et là, d'un coup, tout le monde dit, mais les salauds de marché, peut-être. Sauf que l'erreur, elle vient de nos politiques qui n'ont pas eu le courage de tenir des budgets correctement comme on les tient dans nos familles.
Alors, à l'autre bout de la chaîne, au bout du bout de la chaîne, il y a quand même les gens. Et le nombre de chômeurs, on a dépassé les 3 millions de chômeurs. Aujourd'hui, dans les Échos, il y avait un papier qui signalait qu'il y avait quand même 850 000, en plus de ces 3 millions de chômeurs, 850 000 personnes sans emploi et qui ne sont pas inscrits à la NPE. Alors, comment on fait pour ces gens-là? On leur explique quoi? Que c'est la faute des gouvernements? Que le marché a sa propre loi? Comment on fait?
Non, moi, d'abord...
D'abord, est-ce que, comme l'avait dit François Hollande, le CDI a encore un avenir ou pas?
Alors, on va d'abord commencer par le problème du chômage, qui est un vrai drame. 3 millions de chômeurs et effectivement 800, ou peu importe. Au-delà de 4 millions, certainement, de personnes qui ont des difficultés pour travailler, c'est un vrai drame. C'est un drame d'abord personnel. C'est un drame social, parce que quand on travaille, on fait aussi vivre une famille. Et puis, c'est un drame de la société. C'est un drame de la société. Ça prouve bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de faire des réformettes comme on l'a fait depuis trop longtemps. Il faut réformer en profondeur pour pouvoir amener à chacun la possibilité et le fait de pouvoir bosser. Bon. Donc ça, c'est un premier élément. Sur le fait du CDI, puisqu'on va y venir et c'est lié les deux, je ne crois pas que le CDI soit condamné. Je crois simplement qu'il faut qu'on entrevoie les choses autrement.
Est-ce qu'on parle du même CDI, contrat à durée indéterminée? C'est le mot indéterminé
qui... On parle du même CDI, contrat à durée indéterminée. On n'a pas de difficulté là-dessus. Moi, vous le disiez tout à l'heure, j'ai 45 collaborateurs, je n'ai pas de CDD. Effectivement, j'en ai pas dans l'été pour faire des remplacements de ceux qui sont en congé. Mais j'ai pas de CDD à l'année parce qu'une entreprise, quand il faut bien savoir qu'une entreprise, elle réagit comment? Quand elle a des commandes qui arrivent ou quand elle a du travail à faire, bah elle va essayer d'embaucher. Et le chef d'entreprise, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire dans l'opinion publique en général, la variable d'ajustement, c'est pas le collaborateur. Nombre de chefs d'entreprise, et on l'a vu pendant la crise de 2008 et de 2009, ont préféré ne pas se payer, ont préféré diminuer leur rémunération pour garder leurs salariés pour passer la crise. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est en crise. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Et qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien. Donc la seule variable qui reste, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait les réformes. Donc ça, c'est un vrai élément. On n'a pas fait les réformes qui nous permettraient quoi ? Qui nous permettraient, un, quand on est dans des métiers où on est en concurrence avec des pays de la zone euro, parlons simplement de gens qui ont des niveaux de vie et des niveaux de protection sociale qui pourraient se rapprocher du nôtre, il faut qu'on puisse être comparable en termes de coût du travail. Parce que ça nous permet, sinon c'est un handicap supplémentaire pour aller vendre à l'extérieur. Bon. Et même pour vendre en France, puisque quand on veut vendre des produits en France, si le même produit, quand il vient de l'étranger, il est vendu moins cher, je parle toujours de zone euro, ça reste un handicap. Deuxième élément, il faut que l'entrepreneur il puisse s'adapter. La vie d'une entreprise, c'est pas la fonction publique. C'est pas quelque chose où on a tout le temps le même rythme de travail avec tout le temps le même nombre de commandes.
On revient sur le mot indéterminé là.
Non, on revient pas sur le mot indéterminé. On revient simplement sur un élément, c'est que la vie d'une entreprise, c'est fait de moments où on gagne des marchés, c'est fait de moments où on perd des marchés, c'est fait de moments où ça va mieux, c'est fait de moments où ça va moins bien, c'est fait de moments où il faut lancer de nouveaux produits, où donc on va faire des efforts dans un type, par exemple, de métiers qui sont la recherche et le développement, puis il y a des moments où on va faire de l'expérimentation. Bon. Donc ça veut dire que on doit pouvoir adapter au rythme de l'entreprise. Donc avoir une certaine flexibilité. La flexibilité, ça peut être en termes de temps de travail avec un minimum et un maximum. Ça peut être en termes aussi, par exemple, de formation pour pouvoir faire en sorte qu'un collaborateur qui a commencé sa carrière professionnelle il y a 20 ans, il n'utilise pas les mêmes machines ni les mêmes technologies aujourd'hui. Donc il puisse être formé pour travailler peut-être sur les technologies de demain. Et donc tous ces éléments-là doivent être pris en considération de façon, à mon sens, au contraire par rapport à ce que vous disiez, à sécuriser un petit peu plus le parcours, à faire en sorte que le licenciement ne soit que l'extrême solution et permettre aux collaborateurs de s'adapter à l'évolution du monde et du carnet de commandes de l'entreprise tout au long. Il est évident que si on doit aller vers plus de flexibilité, moi personnellement, je ne serais absolument pas choqué qu'on donne des contreparties et que la contrepartie, par exemple, soit un CDI un peu plus généralisé, un peu plus universel. À partir du moment où, quand on a une vraie difficulté de fonctionnement de l'entreprise, on est capable de pouvoir travailler avec, de pouvoir moduler, de pouvoir éventuellement diminuer le nombre d'heures ou de pouvoir mettre des collaborateurs en formation pour qu'ils soient plus performants après, il est où le problème ? Il n'y a plus de difficulté.
Non, pour aller très très vite en fait, votre CDI serait modulable, variable, mais le salaire serait lui aussi modulable et variable ?
Pas forcément. C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, quand vous savez que le coût moyen, et ça a été rappelé encore ce matin lors des journaux télévisés du début de matinée, du traitement d'un salarié, c'est 70 000 euros, on a largement de quoi faire puisque c'est payé par les cotisations sociales des salariés et des entreprises. On a largement de quoi faire pour sécuriser justement le salarié, pour qu'il ait un salaire qui reste constant. Parce qu'il a bien des échéances à régler, parce qu'il a bien un loyer à payer, parce qu'il a bien de quoi à acheter et autres. Il ne peut pas se permettre d'évoluer.
Ce que craignent les salariés, là, vous dites les choses avec beaucoup de douceur, mais c'est que derrière cette flexi-sécurité, il y a en fait une nouvelle vague de déréglementation. Or, en temps de crise, les gens ont besoin d'assurance, ont besoin de repères.
Les gens ont besoin de repères et d'assurance. Mais franchement, quand on regarde la situation actuelle où on est quasiment à 4 millions de chômeurs, on est tous en train de le dire, 3 millions plus ceux qui ne sont pas sur le marché, enfin pas inscrits chez Pôle emploi, je ne crois pas que l'assurance et la sécurité aient montré qu'elles marchent. Je ne crois pas qu'elles fonctionnent correctement. Je crois simplement qu'on est en phase d'échec depuis maintenant les années 70. Donc il est temps d'en tirer les leçons et d'essayer autre chose.
Alors dernier point national avant d'arriver au local et on va passer ça d'un point à l'autre facilement avec la question du redressement productif de ce ministère avec ce nom assez nouveau, assez novateur. Il y a eu un changement.
Il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est issu du plan Marshall.
Oui.
Il n'y a rien de nouveau. Ça a été issu du plan Marshall. À l'époque du plan Marshall, on avait créé, les Américains avaient créé un ministère de la productivité, du redressement productif.
Bon, très bien. Alors, est-ce que vous pensez que c'est bien, c'est une démarche volontariste ? Est-ce que vous êtes aux côtés de ce ministre pour redresser la production en France et dans la région ?
Écoutez, tout ce qui peut constituer une aide et une avancée pour développer, faire sauter les blocages aux entreprises, à l'emploi et aux salariés est une bonne chose. Il ne reste plus qu'à prendre les dossiers les uns après les autres et les regarder. C'est sûr que malheureusement...
Certains de nos confrères disent, par exemple, que c'est typiquement le ministère des syndicats, ça.
Non, c'est pas typiquement le ministère des syndicats. C'est sûr que quand on entend ce que j'allais vous dire, quand on entend le ministre concerné, Arnaud Montebourg, la première déclaration, c'est vilipender sans même connaître le sujet, être obligé 2 mois après de retourner en arrière alors qu'il a dit pique-pendre sur une des plus grandes familles industrielles françaises, qui peut-être, comme beaucoup d'éditorialistes économistes l'ont écrit, a eu qu'une seule erreur, c'est de garder le plus longtemps possible le salarié en France et de pas délocaliser des usines à l'étranger. Il aurait mieux fait tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Si le ministère du redressement productif, c'est ça, effectivement, je peux croire que c'est un ministère plutôt syndical. Mais je vais vous dire, c'est archaïque ce qu'on dit là. C'est archaïque. L'entreprise, et vous disiez tout à l'heure, je suis le patron des patrons. Je suis pas le patron des patrons, je suis le patron de l'entreprise. C'est archaïque. L'entreprise aujourd'hui, c'est pas les patrons d'un côté, les salariés de l'autre. Ça serait trop simple, ça marche plus. Les salariés tout seuls, ils peuvent pas faire fonctionner, ils peuvent pas développer. Les patrons tout seuls, ils ne peuvent pas non plus.
On verra qu'il y a des cas où besoin... il y a une volonté quand même de.
Non, mais on a besoin d'être ensemble. Et il peut y avoir des cas, on met toujours en avant les exceptions, mais jamais le reste. Donc essayons d'avancer sur le reste. On est dans une situation où on a besoin les uns des autres. Et arrêtons de nous opposer. La preuve est que sur ce territoire, on est en face d'une première française où on a créé un collectif syndicat de salariés, syndicats patronaux. Alors effectivement, pas tous les syndicats de salariés. Pourtant, j'ai appelé l'impact social territorial dès que j'ai été élu. Il y en a certains qui ne veulent pas me rencontrer. Mais avec Force Ouvrière, avec la CGC, avec la CFTC, avec la CGPME, avec donc l'UNAPL, les professions libérales, avec l'UPA et nous-mêmes, on a créé donc UPE13,
mais pas la CFTC, MEDEF. La CGT donc.
La CFDT, suivant les sujets, est là, puisqu'elle a signé l'accord d'ouverture dominicale à Marseille. La CGT, effectivement, elle est contre tout.
On parle du collectif Ma Ville.
Du collectif Mon Entreprise Ma Ville. Voilà. La CGT, effectivement, elle est contre tout. Donc, malheureusement, on ne peut pas construire. Pas d'ailleurs toute la CGT. La représentante de la CGT et la direction de la CGT actuellement. Donc, là-dessus, on ne peut rien faire. En revanche, il y a des CGT et il y a des collaborateurs, enfin, il y a des salariés, des gens qui défendent, qui représentent le syndicat CGT avec qui on peut très bien travailler, qui ont des rencontres et avec qui ça fonctionne bien. Et des exemples, on en a sur Net Cacao ou autre. Des gens qui ont voulu sauver l'entreprise, qui se sont battus, ils ont eu raison de le faire.
Faisons le lien avec le département, les Bouches-du-Rhône, c'est un des départements de la région le plus touché depuis 2009 par l'érosion de l'emploi industriel. Il y a la question de la pétrochimie.
C'est le sujet que vous avez fait il n'y a pas longtemps dans
oui,
le revue.
On l'a fait, c'était un des sujets de la rentrée sociale et de ce gouvernement, donc avec ce ministère. Les syndicats justement dont on parlait disent, les patrons locaux ne se battent pas pour préserver l'industrie dans la région. Ils ont déjà tourné le dos. Jacques Pfister à la CCI dit, c'est fini, on ne raffinera plus du pétrole en France ou en Europe, il faut passer à autre chose. Est-ce que vous dites vous aussi que ça ne sert à rien de se battre pour préserver un outil industriel qui serait obsolète?
Alors, je dis oui, exactement la même chose que vous venez de dire, sauf que je l'explique.
Enfin, c'est la position qu'avait l'ancien préfet, on en parlait tout à l'heure, Frémont, qui disait que tout ça, tout l'héritage de l'époque coloniale est amené à disparaître.
Mais c'est normal, c'est l'histoire du temps. Pour autant, c'est pas pour autant que l'industrie va disparaître. Ne mélangeons pas deux sujets. C'est pas parce qu'on est en train de parler de la fin d'un certain nombre d'industries vieillissantes qui seront remplacées par d'autres types d'industries modernes que c'est la fin de l'industrie. Je vais vous prendre un exemple que vous allez comprendre en 2 minutes. Dans les années 50, on avait tous éventuellement un poste de TSF ou un poste de... Allez, dans les années 40, on avait un poste TSF, dans les années 50, TSF ou radio. Dans les années 60 ou 70, on commençait tous à avoir une télévision en noir et blanc. Dans les années 80-90, on avait des télévisions couleur. Dans les années 2000, on a des écrans plats. Si on était resté avec une industrie qui fabrique que des TSF, dans un marché qui ne veut que des écrans plats de couleur, est-ce que vous pensez sincèrement, un seul instant, qu'il y aurait des possibilités de vendre des TSF aujourd'hui? Ben, la question que vous êtes en train de poser, elle se résume à ça. Alors, ça veut dire qu'en matière d'industrie, de pétrochimie par exemple,
oui, voilà,
et de raffinage,
le raffinage... Arcelor,
c'est pas le raffinage, on est sur le raffinage. Arcelor est une industrie aujourd'hui qui a tout à fait son avenir, il n'y a pas de discussion sur notre territoire concernant Arcelor. Il y a une surproduction mondiale, il y a un ralentissement de la production, mais pour autant, le deuxième fourneau a été réouvert comme prévu il y a 2 ans, alors qu'il avait bénéficié de travaux très importants, de millions d'euros d'investissement, donc c'est pas pour fermer.
Lyon-Delbazel.
Quand je parle aujourd'hui de la raffinerie, Lyon-Delbazel, ouvrons les yeux, soyons sérieux. On est dans une surproduction pétrolière de pétrole raffiné. On est dans une surproduction en Europe. On a un changement de façon de concevoir qui est lié pas à l'Europe, mais au monde. Le stockage de produits pétroliers se fait là où il est produit. Et il est ensuite raffiné ou en diesel, ou en pétrole, ou vendu en brut, enfin, ou en essence, ou vendu en brut, en fonction des besoins. Nous, on a des usines sur le sol français qui sont essentiellement des usines d'essence. Or, même notre consommation de véhicules a tellement évolué qu'on utilise deux tiers de plus, enfin, on utilise deux tiers de gazole, voire 80% de gazole, pour 20% d'essence. Donc, on est en surproduction sur l'essence, et on devient importateur sur le gazole. Donc, inévitablement, il y a eu, et il y aura, et heureusement qu'il y a eu, parce que sinon c'était peut-être d'autres, ou ça aurait été peut-être plusieurs qui auraient été fermés, il y a un ajustement qui doit se faire. Donc Lionel Bazel, qui est à la base un chimiste, qui fait de la pétrochimie, dont le métier n'est pas de raffiner, de vendre de l'essence, a décidé de se séparer de son unité de raffinage pour vendre de l'essence, l'a mise sous cocon, mais après n'a pas attendu M. Montebourg pour trouver des solutions, après avoir essayé de trouver des repreneurs pendant plusieurs mois, et n'a trouvé aucun repreneur. Et à ce sujet, cet exemple est passionnant. Parce que quand l'entreprise a dit, bah, écoutez, on va mettre la raffinerie sous cocon, on a vu une cohorte de syndicalistes de l'entreprise, qui était normal, ils avaient une peur. Mais en dehors de l'entreprise, qui se sont emparés du débat, passé les présidentielles et d'élus avec écharpe. C'est un scandale, il va y avoir 370 licenciements. Vous êtes journaliste et vous avez la possibilité de vous renseigner. Demandez aujourd'hui combien il y a eu de licenciements secs.
Ça, c'est la problématique de la reconversion. On en parle.
Je vais juste terminer.
Oui.
Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi, alors que ça a fait l'émoi de la France entière?
Peut-être parce que les élus se sont mobilisés.
Ben non, les élus se sont mobilisés, ils n'ont rien fait. Ils sont allés défiler avec des écharpes, mais ils n'ont pas mis la moindre aide pour aider, pour faire trouver des solutions. La solution, elle a été trouvée, il y a eu zéro licenciement. Il y a eu des départs volontaires de gens qui ont souhaité faire une autre activité, d'accord ? Il y a eu des départs en pré-retraite, et il y a eu un reclassement par les industriels de la zone. Il y a zéro licenciement sec sur 370. Et il n'y a pas eu, et que soyons clairs là-dessus, il n'y a pas eu la moindre aide d'une collectivité,
enfin, je rappelle quand même que les infrastructures sont publiques
et
qu'elles bénéficient
quelles infrastructures
publiques, les routes qui amènent par exemple aux usines.
Ah d'accord. C'est pas de l'aide en reclassement. Non, mais les routes, elles existaient avant, elles existent encore aujourd'hui.
Oui, mais les élus
on parlait du reclassement.
Ont une utilité. Hein.
Mais j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas d'utilité. Oui. Je dis, puisque vous étiez en train de me dire que le fait que les élus se soient mobilisés, c'est peut-être ce qui a fait qu'il y avait zéro licenciement. Je vous réponds que non. Les élus n'ont rien fait dans le reclassement. Ce sont les industriels de l'étang de mer. Et pourquoi ils l'ont fait? Ben, je vais vous expliquer, parce qu'ils avaient des besoins. Parce qu'ils avaient des besoins qui sont non satisfaits. On parlait il y a quelques minutes de 3 millions de chômeurs au-delà. Vous savez que sur l'étang de Berre, en permanence, il y a 1 000 à 1 200 postes qui sont vacants, pour lesquels on n'arrive pas à trouver, les entrepreneurs n'arrivent pas à trouver de collaborateurs qui puissent venir travailler.
Dans quel secteur ?
Dans plein de secteurs. Chez Rocopter, il y en a 280. EDF vous a lancé une annonce, on a fait une conférence de presse avec eux en début d'année. Ils ont 600 recrutements à faire cette année, ils n'arrivent pas à les trouver. Pourtant, ce n'est pas des petites entreprises. Eurocopter, c'est un des leaders mondiaux qui attire, EDF, mais ça peut être pareil pour Ortec, ça peut être pareil pour SNEF. Il y a plein d'entreprises sur le territoire.
Personnellement, je connais énormément de gens qui envoient des CV à Eurocopter qui ne sont jamais pris. Alors, il faudra quand même qu'on mette en adéquation et qu'on explique ce qu'ils attendent réellement. Ils cherchent des pilotes.
Ils ne cherchent pas des pilotes. Ils cherchent, je crois, des collaborateurs à tous les niveaux de la gamme, puisqu'ils sont amenés à construire un nouvel hélicoptère. Après, ils ont une politique de recrutement et il faut voir avec eux. Mais ils ont un problème pour trouver.
Avouez quand même que c'est difficile de prendre quelqu'un de chez Fralib et de le mettre chez Eurocopter quand il s'agit de.
C'est d'autant plus difficile sur notre territoire et c'est là que je veux en venir. Parce que vous me parliez des élus.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille, aujourd'hui avec Jean-Luc Chauvin et Michel Guéraud.
Un dossier emblématique, on vient de prononcer le nom, Fralib. Alors là, vous dites, c'est un petit peu la faute des salariés, ils étaient trop payés, un syndicalisme un peu trop agressif.
Non, j'ai jamais dit qu'ils étaient trop payés. J'ai jamais dit ça. Par contre, je maintiens qu'effectivement, c'est la faute à certains syndicalistes qui ont cru qu'on pouvait toujours aller plus loin, que les arbres poussaient jusqu'au ciel.
Est-ce que ce n'est pas indécent qu'une multinationale qui fait beaucoup de bénéfices délocalise en Pologne une activité qui reste rentable, les gens continuent à boire du thé,
du dumping fiscal voire social?
Comment on peut défendre
d'abord,
ça?
D'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous entendez par délocaliser? Parce que l'usine, elle existait et ils ne l'ont pas créée. Ils ne l'ont pas créé pour fermer celle d'Aubagne. Donc déjà ça, c'est une mauvaise explication que l'on donne aux concitoyens. L'usine, elle existait comme celle de Belgique. Premier élément. Deuxième élément, dès qu'on commence à toucher le fond du dossier Fralib, on tourne le discours. Alors on va y venir. Est-ce que vous pensez normal, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous avez une rémunération qui est le fruit simplement de la discussion entre les collaborateurs et le patron? Dans l'entreprise Fralib, vous avez un salaire moyen de 31 600 euros par an. 31 600 euros par an, c'est quand même un salaire qui est supérieur à la moyenne pour une entreprise qui a peu de postes hautement qualifiés et beaucoup de postes intermédiaires ou de faibles qualifications. C'est le salaire moyen. Pas de problème.
Très, très inférieur au salaire du patron de Unilever, évidemment. Hein.
Non, mais vous rendez compte quand même de ce que vous êtes en train de dire ?
Oui.
La responsabilité est la même. Il faut quand même être un minimum réaliste. Après, que le salaire du patron Unilever soit peut-être décalé, mais la responsabilité n'est pas la même. En tout cas, on est en train de parler de Fralib.
On parle aussi de salariés qui, depuis des années, ont consacré leur force de travail à une activité qui a produit un produit auquel ils sont attachés.
Si je peux terminer ma démonstration, je vous réponds à toutes les questions.
Allez-y.
Donc, 31 600 de salaire moyen, ce qui est beaucoup plus que la plupart des gens qui ont les mêmes qualifications et dans les mêmes types d'entreprises ou dans des entreprises similaires dans la région et partout en France. En 2009, l'entreprise Fralib vend une marque. Elle vend la marque Lipton Ice Tea. Donc, elle fait des bénéfices exceptionnels, comme elle fait des bénéfices exceptionnels au titre de la loi et au titre du contrat d'intéressement, donc participation intéressement, elle verse une prime normale qui est prévue à ses salariés. 24 000 euros moyen. Donc 31 600 plus 24 000 euros. D'accord ? Mm-hmm. En 2010, comme la vente elle se fait à cheval, il y a une partie du prix qui est payé en 2010. En 2010, 31 600 plus le complément, 10 000 et quelques euros, 11 000 euros. D'accord ? Donc ça fait quand même un revenu qui est confortable pour des qualifications plutôt moyennes, hein, je le redis. Et partant de là, en 2010, certains syndicalistes de l'entreprise considèrent que puisqu'on a des revenus plus importants et qui sont versés une fois par an sous forme de primes et de dividendes, sans tenir compte que c'était quelque chose d'exceptionnel, il faut se mettre en grève pour demander 15% d'augmentation de salaire. Donc, ils se mettent en grève pour demander 15% de salaire et ça dure 19 semaines. Pendant ce délai, trois fois, ils prennent, avec l'aide des bus de l'agglo d'Aubagne, le bus d'Aubagne de l'usine Fralib pour aller jusque sur le parking du supermarché Auchan, qui est un des plus grands d'Europe, le plus grand de France, et ils vont piller les produits de la marque Unilever. Une fois, ils partent avec tous les produits. Une fois, ils sortent les produits, ils les laissent sur le parking. Une fois, ils laissent en rayon.
C'est une action syndicale musclée, c'est ça ? C'est ça qui vous déplaît ?
Non, ce qui me déplaît simplement, c'est
que... Est-ce que vous êtes en train de dire que des salariés dans une entreprise qui fait des bénéfices n'ont pas le droit de réclamer une augmentation de salaire ?
Je vais juste essayer de terminer ma démonstration et puis je répondrai à toutes vos questions. Parce que j'ai l'impression que ça je dérange et que donc on me coupe dans ma démonstration chaque fois.
On cherche. Non, mais je vais vous critiquer jusqu'au bout.
On cherche à discuter
des syndicats.
Justement,
de certains syndicats.
Je vais terminer et vos auditeurs pourront se faire une idée eux-mêmes.
Alors,
et donc, quand on est dans ce genre de comportement, est-ce que vous pensez que l'actionnaire, l'entrepreneur, quand c'est l'actionnaire qui est en phase à devoir prendre des choix parce qu'il a des surproductions, il va maintenir la situation, il va se laisser piller, il va être victime de chantage ou il va plutôt se réorganiser ? Donc dans ce cadre-là, moi je dis à haute voix que je considère que ce qui se passe à Fralib, une partie du comportement des salariés de Fralib, et pas tous, parce que c'est pas vrai que c'était tous, une partie du comportement des salariés de Fralib a amené à cette situation-là. Et c'est regrettable pour l'ensemble du territoire.
Alors, je peux vous poser une question.
Maintenant, c'est bon.
Vous qui aimez le sens de la prise de responsabilité, etc. Ce projet des salariés, cette volonté des salariés, que vous pouvez peut-être trouver dérisoire, mais d'essayer de se prendre en main, de créer une coopérative, de reprendre l'activité, de défendre leur emploi. Avec le soutien des collectivités territoriales, de certaines institutions. Vous dites ça ? Non, bon, voilà.
Non, moi, déjà,
ça doit partir, c'est comme ça. Déjà, il faut aller faire ça en Pologne. Maintenant, c'est la modernité.
Non, Fralib fait ce qu'il veut. L'actionnaire, il fait ce qu'il veut avec son argent. D'accord ? Et en l'occurrence, s'il s'en va, il a été découragé par certains. Donc, premier élément. Et donc, je dis bien, puisque vous m'avez posé la question, je pensais que vous reveniez sur ça, je le dis à haute intelligible voix, qu'effectivement, je pense que certains comportements syndicalistes, à des fins personnelles ou à des fins complètement déconnectées de l'intérêt général de l'entreprise, amène à de la destruction. On a des exemples contraires où on a eu des comportements syndicalistes responsables, où on arrive à trouver du bon fonctionnement par l'intérieur de Basel, mais on pourrait parler de net cacao. D'accord ? Donc il faut être juste dans les deux cas. Ensuite, pour le reste, sur la scope, il n'y a pas de problème, il y a plein de scopes qui existent et qui fonctionnent bien. Ce qui est ennuyeux,
c'est quand la SCOP, elle va pas fonctionner sur des règles de concurrence normales, quand elle va être financée, soutenue par des subventions publiques.
Ce qui alors se faisait avant. Des...
Ah, mais c'est ce qui peut être. Ça se faisait pas avant du temps de Fralib. Donc quand on va
il
n'y
a pas eu
d'exonération
fiscale pour l'installation de Fralib. Il n'y a pas eu
comme toutes les autres entreprises de la zone.
Bah alors.
Comme toutes les autres entreprises de la zone, sauf que ça a été limité dans le temps. Alors que là, en l'occurrence, il n'y a plus aucune autre entreprise de la zone qui a des exonérations. Donc premier élément qui est un élément de concurrence non loyale par rapport aux autres entreprises, c'est les aides d'État. Deuxième élément qui peut paraître surprenant, alors les aides sous forme diverse d'ailleurs. Deuxième élément, c'est que s'ils veulent faire, il n'y a pas de problème. Ils se mettent d'accord avec l'entrepreneur qui s'en va, ou ils achètent des machines, ils produisent, ils ont le savoir-faire, ils ont la technique, ils ont la connaissance, ils savent où se fournir. Là, en l'occurrence, ils ne veulent pas ça. Ils demandent au surplus que l'entreprise qui se retire leur laisse pour 1 euro le matériel, ce qui a été acté après discussion, mais en plus leur assure 50 commandes. Qu'est-ce que ça veut dire si on réfléchit ? Ça veut dire qu'ils sont prêts à reprendre leur destin en main, mais il faut qu'ils soient subventionnés, il faut qu'ils ne payent pas les machines, il faut qu'on leur fasse 50 commandes. Est-ce que c'est des règles de concurrence normale ? Et est-ce qu'au fond, à la sixième année, ça ne va pas conduire à constater qu'on ne va pas y arriver parce qu'on n'aura pas été habitué dans les vraies règles du marché ?
Michel Guéroux. Alors, j'essaie d'avancer, il y a plein de sujets qu'on a envie d'aborder avec vous, la métropole, etc., on va y arriver. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire le problème de l'emploi dans ce département, le problème de la désindustrialisation, c'est quand même avant tout un problème de dérive d'un certain type de syndicalisme, d'un syndicalisme voyou. Vous avez souvent pointé les dérives de la CGT sur le port. Est-ce que vous ne parlez pas un peu trop de ça ? Est-ce que c'est pas un peu facile ?
Bah écoutez, de la même façon, est-ce que vous parlez pas un peu trop de Fralib ? Est-ce que vous parlez pas un peu trop des entreprises qui vont pas bien ?
150 emplois qui...
Oui, mais effectivement, il y a 85 000 entreprises au registre du commerce des Bouches-du-Rhône. On parle de quoi ? On parle toujours des 10 mêmes. Je peux vous faire la même remarque. On parle jamais des 84 990 autres où ça se passe bien. Le problème, c'est qu'on est dans un monde...
Attendez.
Et on est dans un monde où nous tous... Vous, les médias, vous parlez que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et nous tous, on parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc on est obligé de parler de ça.
Jean-Luc Chauvin, là, on ne parle pas du tout de trains, on parle de famille. Tout à l'heure, vous avez eu un ton très empathique pour parler de la détresse de ces chômeurs. Là, on parle de gens qui sont littéralement dans la détresse,
avec un
taux de reconversion qui est quasi nul.
Mais pourquoi ils seraient nuls ? Pourquoi ils seraient nuls ?
Parce qu'ils sont trop âgés.
Mais pourquoi ils seraient trop âgés ? Regardez Netcacao. Pourquoi demain matin d'autres industries ? Il y a plein d'industriels dans l'agroalimentaire qui pourraient
rejoindre le gouvernement. Il y a plein
d'industriels.
Quand une entreprise s'en va, qu'elle rend dans les choses viables.
Mais pourquoi vous voulez toujours légiférer ? Pourquoi la solution serait la loi ? On voit bien depuis 50 ans dans ce pays que la loi ne fonctionne pas. Les gens qui quittent un emploi parce qu'il y a des réindustrialisations.
S'il n'y avait pas eu la loi, il n'y aurait même pas eu les congés payés. Vous vous rendez compte,
on n'est pas en train de parler de la même chose.
Oui, la loi est parfois utile dans le monde du travail.
Alors, il y a beaucoup de lois aussi qu'on fait dans le monde du travail qui conduisent à des aberrations et qui posent plus de problèmes qu'autre chose. Donc il faut rester, et pas que dans le monde du travail, il faut rester quand même sur des certaines bases de réalisme. Personne ne contredit le fait que les congés payés et la sécurité sociale et autres sont des lois qui ont été d'une avancée sociale importante. Il n'y a pas de débat. C'est indispensable. Okay ? Sur le reste, sur Fralib, moi je ne crois pas qu'on ait besoin d'une loi pour faire en sorte de reclasser les gens. Ce qui est important, c'est les former tout au long de la vie pour que le jour où il y a un problème dans leur entreprise, ils soient employables ailleurs. Si ce n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui on ne s'y est pas pris comme ça, il faut les former aujourd'hui, il faut les remettre à niveau pour qu'ils puissent trouver un autre emploi. Il n'est pas question qu'ils ne trouvent pas un emploi. Par contre, le débat, c'est de dire que c'est un certain nombre d'entre eux qui, par des comportements personnels compliqués, ont amené la situation du départ de Fralib, d'Unilever, si vous voulez, de la fermeture de Fralib, qui ne serait vraisemblablement jamais parti, puisque ça faisait des années qu'il était là.
À ce propos, on revient aux élus, et notamment les élus vis-à-vis de Fralib. On a vu la communauté urbaine qui s'est, c'est une première, qui s'est portée acquéreur des terrains. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une opération foncière juteuse ? C'est quoi ? C'est vain ?
J'avais jamais osé le penser comme ça, mais ça peut être le cas. J'en sais rien. Non, je crois que c'est céder à de la pression idéologique plus qu'à du réalisme.
C'est l'argent public.
Le terrain, ils en feront toujours quelque chose parce que l'emplacement est bon, parce qu'aujourd'hui, la société X, Y, Z aura besoin de s'implanter parce qu'il n'y a pas tant de terrain que ça maintenant sur cette zone et que donc il y aura des possibilités. Voilà, je crois que là aussi, il y a un petit peu d'idéologie derrière tout ça, un petit peu de pragmatisme.
Jurisprudence, d'après vous ?
Je ne pense pas que ça doit faire jurisprudence. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait des repreneurs sur le terrain qui étaient là, qui étaient prêts à financer, qui étaient prêts à reprendre d'ailleurs au passage 50 salariés sur les 100 qui restaient, puisque les autres ont déjà trouvé des solutions. Donc ils reprenaient la moitié, alors qu'aujourd'hui, je constate simplement que la collectivité territoriale Marseille-Provence-Métropole qui a préempté, pour l'instant, ne reprend personne. Donc ça fait 50 emplois de moins, ça fait 100 au chômage. Résultat des courses. Ça fait 5 millions d'euros qui ont été dépensés avec l'argent public, alors que pour la même somme, c'est de l'argent privé. Ceci étant, je pense que c'est un épiphénomène, que c'est pas un mauvais placement, que derrière, ils en feront quelque chose, qu'ils récupéreront leur argent. Simplement, on peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle d'une collectivité qui a déjà quelques difficultés financières, qui n'est pas des plus riches, d'aller investir dans un dossier où, au surcroît, on ne crée pas du coup immédiatement les 50 emplois. Voilà.
Michel Guéraud,
le syndicalisme voyou, on en a parlé très rapidement. Il y a un vrai problème de, il y a une CGT qui aurait un comportement spécifique dans ce département. Oui. Il faut le dire. C'est
oui. Je l'ai dit, je le redis.
Mais je sens que ça vient du cœur là.
Oui, non, mais parce que je l'ai dit, je le redis. 98% du dialogue social se passe très bien sur ce territoire. Il y a 2%. Ces 2%, c'est historique ici. C'est pas forcément le cas ailleurs, c'est historique ici. C'est historique ici, c'est l'histoire du port, c'est à cause de ça qu'on a expliqué à tous les Marseillais, à tous les Provençaux, que le port c'était pas une chance, c'était une mauvaise chose, c'était un caillou dans la chaussure, et qu'il fallait s'en détourner. Et je pense que, inconsciemment, le fait qu'on ait rien dit pendant 40 ans, fait qu'aujourd'hui, ça donne des idées, ça fait radicaliser dans d'autres secteurs. Donc je pense que c'est pas la loi, il faut que la loi elle soit appliquée, du côté salarial comme du côté patronal, dans la ville tout le monde, ici, à Marseille, en Provence, comme de partout en France. Et donc, quand il y a des choses qui, pour 2%, ne se passent pas normalement, ben, il faut les dénoncer. Écoutez, soyons simples. Vous avez un grand port maritime. Ce grand port maritime, qui est un établissement public, qui est régi par des règles de droit public, qui fait un appel d'offres de droit public pour la sécurité, le gardiennage d'un établissement qui nécessite une sécurité, qui a des passagers qui sont hors Schengen, qui a des marchandises qui doivent être sécurisées ou autre. Et quand vous avez un délégué syndical qui se met en première page de tous les journaux pour dire qu'il est fier d'avoir fait reculer le port et d'avoir fait annuler un appel d'offres public, on peut quand même se demander si ça correspond à l'application du droit.
C'est la seule zone de résistance au changement dans ce département ?
Non, pas du tout.
Parce qu'on parle tout à l'heure, vous parliez des entreprises qui vont bien, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Mais finalement, c'est un peu facile aussi de parler toujours des syndicats. Il y a des organismes comme RFF, par exemple, qui ne vendent pas un mètre carré sans négocier pendant 3 ans.
Est-ce que c'est une bonne chose de négocier pendant 3 ans? Est-ce qu'on ne perd pas de l'efficacité?
Les zones de résistance sont nombreuses, multiples et variées.
Oui, mais ça, RFF, il a les mêmes problèmes ici que sur tout le territoire. Là, on parlait du port, je vous donne un exemple, quelque chose qui n'est pas normal. Je vais vous en donner un autre d'exemple. Quand vous avez des gens qui sont en grève, il y a le droit, il n'y a pas de problème. Mais quand ils vont bloquer le fournisseur, et que ça en arrive au coup de poing. Là, on ne parle plus du port, on parle de McDo. Quand ils sont en grève,
c'est
parce
la CGT
que
à nouveau.
Quand... Et en plus, je vais vous dire, ben oui, c'est qu'eux qui ont ce comportement-là. Et ce n'est pas toute la CGT, je le redis encore une fois. Je vous ai parlé de Netcacol, je vous ai parlé d'autres exemples, où effectivement, ils n'ont pas ce comportement-là. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui se drapent d'un drapeau CGT, donc de défense de l'intérêt général, qui ne défendent que leur propre intérêt.
Alors, par contre, parce que vous parlez souvent de la CGT, mais beaucoup moins de Force ouvrière. Or, il se trouve, et d'autres le font à votre place, qu'il existe aussi un syndicat Force ouvrière très puissant, au niveau, alors moins au niveau du privé, mais au niveau des territoriaux.
C'est probablement pour ça que j'en parle pas.
Peut-être.
Que j'en parle moins. C'est parce que c'est pas mon secteur de compétence.
Ça a quand même des conséquences pour l'image de la ville, pour les entrepreneurs, je pense.
Pour
à
l'agglomération
la
future.
Du fini parti et de la propreté, par exemple, de la ville. C'est un enjeu qui concerne.
Qui concerne tous les citoyens.
Et donc, l'image. C'est par prudence, c'est parce que vous avez Force ouvrière dans votre collectif.
Non, pas du tout.
C'est du pragmatisme, là aussi ou
non,
c'est,
je pense tout simplement que moi, aujourd'hui, j'ai un mandat qui est celui de président de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Donc, je parle des sujets des entreprises, donc du secteur privé. C'est pas mon rôle ni mon mandat. Chacun est libre d'avoir son avis. D'autres peuvent le faire. C'est leur rôle, c'est leur mandat.
Enfin, je note seulement. Quand il y a une grève FO qui empêche les entreprises d'être livrées,
on prend nos responsabilités. On les a déjà prises. Ça ne nous a pas dérangé pendant une grève des poubelles il n'y a pas si longtemps que ça de mettre en place un service de ramassage des ordures ménagères pour les commerçants du centre-ville qui ne pouvaient plus travailler normalement. Vous voyez, je veux dire, on prend en fonction des sujets qui nous correspondent. Simplement, je vous rappelle en matière sur ce sujet-là qu'il y a des élus politiques qui, pendant la campagne municipale de 2008, avaient fait un certain nombre de promesses. Chaque concitoyen jugera en 2014 si ça s'est amélioré, si les promesses ont été tenues ou pas.
Est-ce que vous voulez dire que Jeanne Caselli, qui avait promis de rendre la... Enfin, Jean-Noël Guérini, à cette époque-là, Jeanne Caselli était assez ami avec lui.
C'est un courroie de transmission, même.
Est-ce que vous voulez dire qu'il a échoué?
En tout cas, ce qui semble, c'est que Jean-Noël Guérini, qui avait fait des promesses à ce sujet-là, n'a pas pu les tenir. Il avait donné quelques mois, je crois. pour que la situation soit améliorée. Il avait parlé sur le fini parti. Semble-t-il peut-être qu'il a été occupé avec d'autres sujets. Peut-être que puis c'est pas lui qui gère après tout la collectivité qui en a la charge. Lui gère le conseil général. Donc faisons pas de procès d'intention inutile. Mais les promesses qui avaient été faites par lui et tous ses colistiers, ne semble-t-il, n'ont pas été respectées sur ce sujet-là.
Alors on est arrivé à Marseille. Marseille a été au cœur de l'actualité nationale, locale, conférence gouvernementale interministérielle. Un nouveau préfet, je crois que vous l'avez rencontré, et une promesse de création de métropole. Ça bouge, c'est bien, c'est la métropole, alors visiblement peu de monde en veut, et vous, vous dites oui, allez on y va, et même vite.
Vous qui êtes devenu subitement cause nationale, hein, comme nous tous, un beau matin.
D'abord on va rebondir sur cette dernière, sur cette dernière remarque. Si on peut se passer d'être trop stigmatisé, d'être une cause nationale, c'est bien. D'un autre côté, si grâce à ce battage médiatique, grâce à peut-être aux déclarations en appelant à l'armée, on a pu devenir cause nationale et qu'on a des moyens qui sont mis en place, et notamment des moyens qui nous permettent de rattraper le retard historique qu'on a sur ce territoire, je pense que ça peut avoir au moins un salut positif. Voilà, donc là c'est pour balayer l'anecdote en quelques minutes, de façon tout à fait... clair, la métropole c'est pas un dada nouveau, on s'est pas levé entrepreneur un matin après la déclaration du comité interministériel en disant tiens la métropole c'est bien. C'est pas vrai. Le collectif en entreprise Ma Ville qui a été créé pour les municipales de 2008 parlait déjà des sujets que sont les transports, le logement, la petite enfance, hein, je le rappelle, et a fait s'engager des élus sur une charte. On constatera à la fin du mandat, s'ils ont respecté ou pas la charte, ils se sont tous engagés. Donc ça sera facile, comme ça on ne pourra pas stigmatiser en disant c'est un bord ou un autre, ils sont tous engagés. Bon. Et d'ailleurs, suite à ça, il est né en 2008 un syndicat mixte des transports de préfiguration. 4 ans après, il n'a toujours rien fait, à part des études, à part une couche supplémentaire, à part des dépenses publiques supplémentaires, il n'a toujours rien fait, pas une ligne commune, pas de bout à bout de ligne, puisqu'il faut toujours s'arrêter, parcher un morceau à pied avant de prendre la ligne d'après, même pas un ticket unique, même plus grave que ça. Les principaux représentants de ce syndicat mixte des transports, pour le compte du département, ont dans leur territoire fait en sorte que le transport devienne gratuit, ce qui rend du coup quasi impossible de faire un système départemental des transports. Alors d'ailleurs, quand je dis qu'il est gratuit, rendons à César ce qui est à César.
Ça, c'est pour Aubagne.
Il n'est pas gratuit pour tout le monde, puisqu'il a été gratuit. Au passage, les entreprises qui payaient 1,03 payent maintenant 1,80. Et donc, globalement, sur le département, je vais vous donner un chiffre qui est intéressant. Entre 2008 et 2011, le versement transport en 2008, donc la taxe que payent les entreprises pour le transport collectif, qui est payée sur la masse salariale, était de 128 millions en 2008, elle est de 240 millions en 2011. Il ne vous a pas échappé, on en parlait tout à l'heure et vous le savez bien, comme tous vos auditeurs, que c'est une période de crise économique. Et dans cette période de crise économique, le versement transport payé par les entreprises a augmenté de 50% sans avoir la moindre amélioration pour les concitoyens, sans avoir la moindre amélioration pour les salariés de nos entreprises, sans avoir un seul ticket unique, sans avoir le moindre élément. Donc permettez-moi, quand on paye 250 millions d'euros, pour faire simple, 240 millions d'euros, les chiffres sont tellement grands que c'est même pas la proportion, de penser que l'on a un mot à dire.
Donc, pour le coup, 2008, vous êtes étatiste, là, vous dites, ok, ça marche pas au niveau local, il faut que l'État impose la création d'une métropole, parce qu'ils n'y arrivent pas.
Vous m'avez dit qu'on avait un peu de temps et qu'il fallait que je développe, donc je développe rapidement.
Expliquez-nous, parce qu'on a l'impression de...
Donc depuis 2008, on dit, on a une méthode, le monde économique, le collectif Entreprise Ma Ville, je rappelle encore une fois, c'est les syndicats de salariés, Force Ouvrière, CFTC, CGC, c'est les professions libérales, c'est les artisans, c'est les CGPME et c'est nous-mêmes, on dit, il faut faire des choses. Depuis 4 ans, ce n'est pas fait. Entre-temps est arrivée en 2010 une nouvelle loi, l'État, qui proposait de faire des pôles métropolitains ou des métropoles.
Alors, Renaud Muselier s'est pas mal battu pour ça.
Probablement, ça n'a pas été le seul.
Enfin, pour les zones urbaines de plus de 500 000 habitants.
La métropole. Par contre, les pôles métropolitains, c'était faisable pour à partir à regroupement. Et nous, sur ce territoire, là aussi encore une chance, après la chance d'Olivier Guichard qui a été ratée dans les années 60, hein, 1966, après, on avait une possibilité de faire. Et nos élus ont dit « oui, non, mais nous, on ne veut pas de la métropole ». On ne veut pas de pôle métropolitain, on verra bien, oui, ou alors on en veut un, mais à géométrie variable, on va venir à 3. À l'arrivée, en juillet de cette année seulement, sous la pression d'un certain nombre, dont le collectif ou l'entreprise Ma Ville, ils ont dit, bah écoutez, pourquoi pas on en créer un, mais on verra bien. Donc force est de constater qu'on n'arrive pas à travailler en commun. Pourtant, on a des sujets en commun. Quand aujourd'hui, et vous, on parlait tout à l'heure de l'emploi sur les temps de BR, quand aujourd'hui, vous avez des entreprises qui cherchent de l'emploi sur les temps de BR, quand vous avez des gens à Marseille qui veulent trouver un emploi, quand vous avez des gens à Aix qui pourraient prendre un emploi, quand vous avez des gens à Salon, quand vous avez des gens à La Ciotat qui préparent un emploi, mais qui ne le prennent pas pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'y aller en transport en commun. Et que s'il faut qu'ils le prennent, ils ont besoin d'acheter une voiture, payer l'assurance, payer l'essence, passer une heure par jour, voire plus, en transport. Et que donc le coût social et le coût économique est absolument moins rentable que de ne pas avoir d'emploi et donc de quelque part pas avoir l'utilité qui va avec. Je pense que là, on peut considérer qu'il y a un vrai échec. Il y a un vrai échec. De l'aménagement collectif sur notre territoire.
C'est d'ailleurs l'exemple qu'a pris le Premier ministre en citant les 9 autorités de transport sur une même zone.
C'est un exemple qu'on défend depuis un certain temps. Et donc du coup, ce plan, enfin cette opération médiatique, cet appel à l'armée, fait qu'il y a eu un comité interministériel et qui propose une autre organisation du territoire. C'est à peu près normal. Les frontières ont été établies à l'époque de Napoléon. Qui peut penser qu'on peut encore vivre avec des frontières napoléoniennes ? Donc il faut absolument qu'on avance. Donc la métropole, c'est une nécessité si on veut arriver à trouver des transports au quotidien de bonne qualité pour tous les concitoyens du territoire provençal, si on veut arriver à développer l'économie et donc l'emploi, avoir un emploi.
On va répondre à la question quand même. Vous dites là, il faut une loi, là, il faut l'État.
Le Premier ministre a pris sa responsabilité. Il a laissé aux élus locaux jusqu'à la fin décembre pour pouvoir trouver une solution, une vraie solution. Et sinon, il dit pour une loi. Nous, on lui dit chiche, ok, on pense que c'est important. Ok, allons-y. Et faisons une loi. Si nos élus ne sont pas capables, ça fait depuis 1960 qu'ils ne sont pas capables de s'entendre pour des querelles partisanes. En dehors des partis, c'est pas gauche-droite, c'est pas droite-gauche, c'est pas d'idéologie, c'est des querelles partisanes. Et donc le territoire n'a pas avancé comme les autres. Regardez Montpellier, regardez Grenoble, regardez Lyon, regardez Bordeaux, regardez Nantes, tiens, le Premier ministre, regardez Lille. Donc il connaît bien le sujet, il a été maire de Nantes pendant des années. Quand il a pris Nantes, il n'y avait pas de communauté, Saint-Nazaire était contre. Et puis finalement, ils se sont mariés et ils ont récupéré beaucoup de développement, de l'emploi et de la richesse.
Et qu'est-ce que vous répondez à ces élus qui disent « on veut nous imposer un grand machin, une usine à gaz étatique sur le dos ». Nous, on est près des citoyens, on est les représentants de la proximité.
Je pense qu'ils habillent leur intérêt par des peurs collectives qui sont fausses. Aujourd'hui, si on doit créer une grande structure, il y a 3 règles essentielles. La première, il faut créer une structure qui ait des compétences très précises et des compétences importantes de taille du bassin de vie. On a fait un sondage avec le collectif, on démontre bien que les gens travaillent dans une interco, habitent dans une autre et vont faire des courses ou faire des loisirs dans une autre. Bon, donc ça, c'est une réalité. Donc il faut qu'ils s'occupent des grands éléments. Logement, transport, économie, tourisme, promotion du territoire à l'étranger. En dehors de ça, il faut que le reste des pouvoirs soient reconcentrés dans les mains des maires. Il ne faut pas garder une structure intermédiaire, ce qui est le danger du pôle métropolitain, parce que ça voudrait dire augmentation des dépenses. On vient tous de recevoir nos feuilles d'imposition locales. On comprend que ce n'est pas la peine d'en rajouter et que peut-être il y a des couches dans le cadre de la RGPP, d'autres l'ont fait, de fonctionnement qu'il faudrait supprimer en mettant tout le monde d'accord sur 4-5 grandes compétences qui seraient exclusivement dans la métropole et pas comme aujourd'hui, un peu au conseil général, un peu au conseil régional, un peu à la commune, un peu à la communauté, ce qui fait que ces obligations croisées d'autorisation et de financement bloquent tout pour aller plus vite et remettre tout le reste des pouvoirs au maire, à l'élu de proximité.
Quel va être l'intérêt des petits maires finalement de voir leur paysage défiguré encore
parce Pourquoi qu'ils ont, vous voulez leur paysage défiguré
Ils n'ont plus la taxe sur les entreprises. Si en plus ils n'ont plus la fiscalité, ça sert à quoi en fait?
Mais il n'y a pas de problème de fiscalité. Si on met quelques compétences importantes dans les mains d'un ensemble qui est plus grand, qui permet d'avoir une vraie vision d'aménagement du territoire, ça n'enlève rien de leur fiscalité. Ça enlève leur fiscalité dans cette compétence-là. Le reste, ils gardent en matière de proximité, en matière de police municipale, en matière de ramassage d'ordures ménagères. Moi, je crois qu'il faut le rendre aussi en matière de délivrance des permis. Pourquoi pas ? Au contraire, je crois qu'il y a deux élections importantes en France, c'est l'élection du maire et l'élection du président de la République. Il faut surtout pas enlever cette importance à l'élection des maires. Par contre, il faut aussi créer une vraie structure élue au suffrage universel qui ait une vraie vision sur l'aménagement du territoire. On voit bien que la taille de la commune n'est plus pertinente aujourd'hui pour faire un certain nombre d'investissements, un certain nombre d'aménagements.
En parlant de communes et de millefeuille qui s'empilent, les RGPP version gouvernement Sarkozy, c'est terminé, version socialiste, elle vous convient ?
Bon, j'en sais rien, c'est trop tôt pour savoir. Je pense qu'en matière de RGPP, il faut aussi balayer devant chez nous. Donc, on a beaucoup parlé des autres. Nous aussi, on a des progrès à faire dans le monde économique. On a 2 chambres de commerce sur ce territoire. Il faut peut-être réfléchir si une seule ne serait pas suffisante.
Michel ?
Oui. La métropole... Ouais, je suis plus raccord. cette métropole, je finis par m'y perdre.
Vous êtes pas le seul parce qu'on fait tout pour nous y perdre tous.
Vous êtes... On en parle depuis 10 minutes, mais vous décrivez une situation bloquée. Est-ce que vous pensez cette fois-ci que quelque chose va se passer? Est-ce que vous êtes un petit peu optimiste ou voit une levée de bouclier?
Oui, je pense qu'on était sur une situation bloquée où on nous faisait un pôle métropolitain défensif qui servait à rien. Et d'ailleurs, on voit que les mêmes...
toujours d'actualité.
On voit d'ailleurs, voilà ce que j'allais dire, on voit que les mêmes qui nous proposaient ça à l'époque continuent à le proposer. Ceci dit, les lignes bougent. Le fait que le Premier ministre ait passé 2 jours ici, c'est un message très fort. Moi, je n'ai pas de souvenir d'un Premier ministre qui a passé 2 jours dans une région.
Si, quand la ville a été mise sous tutelle, je crois.
Oui, enfin, excusez-moi, ça peut être que de l'histoire. J'étais pas encore, comme l'a rappelé tout à l'heure votre brillant présentateur, j'ai pas de mémoire de ce moment-là. Ceci étant, effectivement, elle existe historiquement, mais là, c'est pas pour les mêmes raisons. Donc, 2 jours, avec 10 ministres, de surcroît. Je pense que c'est un signe fort. Il vous a pas échappé que du coup un certain nombre d'élus ont pris des positions. Et des positions qui sont intéressantes et qui sont innovantes. Président du conseil régional, par exemple, s'est prononcé sur ce sujet. Gaël Lenfant, vice-président du conseil régional. Mieux que ça, le maire de Vitrolles, vice-président de la CPA, qui s'est prononcé pour ça. Donc je crois que les lignes sont en train de bouger. Et d'ailleurs, on voit un clivage entre les élus d'une certaine génération et les élus plus jeunes.
Ça, c'est un message subliminal pour 2014, j'imagine.
Souvent, les élus plus jeunes ont des positions plus favorables à la construction ensemble et moins refermées, repliées sur leur territoire. Est-ce que ça serait un problème de modernité? J'en sais rien. C'est pas toujours le cas, parce que le président de la région que j'ai cité, le maire de Marseille, le Eugène Caselli, sont pas forcément très jeunes, et j'ai cru comprendre qu'ils étaient tous pour la métropole.
Vous en sortez bien, Jean-Luc Chauvin. Aujourd'hui, vous êtes une force de proposition, vous êtes reçu à la préfecture, à la mairie. On vous écoute comme un petit son qu'on écoute, ou vous êtes réellement une force qui pousse et qui est susceptible de vraiment marquer...
En tout cas, je ne sais pas comment on est perçu, ce serait prétentieux de ma part de pouvoir juger.
Parce que jusqu'à présent, les entrepreneurs en ont parlé pour la coopération décentralisée, un petit peu on les amenait en promenade.
Ce que je crois, c'est qu'à force de ne pas être s'occupé de ce qui se passait sur le territoire, on se rend compte qu'on a des problèmes pour développer nos entreprises, pour attirer des nouveaux collaborateurs, pour faire en sorte d'embaucher, et donc on a des problèmes dans nos entreprises. Donc force est de constater qu'il faut qu'on se mêle un petit peu plus de ce qui se passe à l'extérieur. Le conseil nous avait été donné d'ailleurs par un ancien préfet de région dont vous avez parlé tout à l'heure, en nous disant sur ce territoire, si vous avez du retard, c'est peut-être aussi parce que vous ne vous êtes pas assez occupé de ce qui se passait. Donc on a pris au mot cet ancien préfet, on s'en occupe un petit peu. Quant à l'influence, j'en sais rien. Ce que je crois aussi beaucoup, c'est qu'il faut être moderne. Être moderne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir des clivages quand l'intérêt général le veut. Et c'est ce qu'on essaie de faire quand on travaille en commun avec certains syndicats de salariés. Malheureusement, les autres, on les appelle. Ils viennent parfois, comme sur l'ouverture dominicale, et ils viennent parfois pas.
D'accord. Jean-Luc Chauvin, je vous remercie. Ultime question qu'on avait déjà posée à un autre candidat, mais politique celui-ci. Vous payez l'ISF?
Non, je ne paye pas l'ISF. Après, j'attends de savoir ce qu'il y aura dans la loi des finances. Peut-être que j'y serai l'an prochain. J'en sais rien encore. À ce jour, je ne paye pas l'ISF. Mais au fond, je vais vous répondre autrement. J'aimerais bien le payer.
C'est pas honteux.
75%, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. C'est confiscatoire. Je suis totalement contre. Ceci étant, l'ISF, au fond, s'il y avait que des gens qui payaient l'ISF, ça serait pas mal. Et il faut pas jeter la pierre à ceux qui gagne un peu mieux que les autres, parce que c'est aussi ceux qui font un peu avancer le schéma collectivement. Donc je crois qu'on a plutôt intérêt dans ce pays de se réconcilier tous ensemble pour essayer de l'aller d'avant, plutôt que de se diviser, de se déchirer entre nous.
Je vous remercie. Autre événement, on en a parlé en début d'émission, c'est la 100e du Ravi. 100e, Michel Guéraud fêtait, bien entendu, oui, avec des danseuses brésiliennes.
Une grande aventure entrepreneuriale dans les Bouches-du-Rhône et en PACA, un mensuel régional, indépendant, qui se fabrique avec pas grand-chose, qui sort 100 numéros depuis 9 ans. C'est un exploit. C'est des journaux comme le nôtre, il n'y en a pas tant que ça en France.
Je rappelle que c'est un mensuel. Hein.
On devient presque une exception, un OPNI, un objet de presse non identifié dans le paysage médiatique français.
Justement, ça prouve bien que quand on a envie d'entreprendre et quand on se bouscule un petit peu, tout est possible, on peut y arriver.
N'insistez
tant
pas,
mieux, longue vie.
N'insistez pas, vous demander du mécénat.
Donc, avant d'adhérer à l'UPE13, on appelle aux éditeurs de Grenouille à ne pas manquer le numéro 100. Il y aura 8 pages en plus, plein de bonnes choses et puis à s'abonner, plus que jamais.
Allez, plein de bonnes choses. On se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Bye.